retour.
OK, kid, let's do this.
Le boulevard 102. Uh-huh.
Boulevard 102.
16h26 en plein cœur de l'été. On est bien. Température ressentie 35 degrés. Si vous êtes à l'air climatisé dans votre voiture, les lumières, pas les lumières, mais les fenêtres
baissées, montées,
fermées. Baissez-moi ça un peu. L'air climatisé, mais baissez-moi un peu les fenêtres, faire rentrer l'air.
L'air climatisé quand t'es sur l'autoroute, mais les fenêtres ouvertes quand t'es en chemin de campagne.
En tout, c'est le son qui t'agace.
Non, c'est pareil, tu consommes moins d'essence de cette manière-là.
C'est plus aérodynamique.
Ben, c'est sûr que sur l'autoroute, les fenêtres ouvertes.
Ouais. Matt Thomasson m'avait déjà sorti une statistique que je trouvais franchement intéressante puis que j'aurais aimé essayer entre Québec et Montréal. Si tu montes à Montréal les fenêtres baissées, tu pourrais perdre jusqu'à 20 % de ton essence supplémentaire. Et c'est la même chose si tes fenêtres sont fermées puis ton air climatisé dans le Prolor. Tu vas perdre 25 % de ton essence.
Finalement, tu perds tout le temps de ton essence entre Québec et Montréal, ce qui est quand même...
En fait, ça doit être... Tu dois sauver peut-être... à l'automne, tu dois sauver un peu plus d'argent parce que tu mets pas à chaufferette. Puis tu mets pas l'air climatisé. Mm-hmm. Puis au printemps aussi, ça doit être
ça dépend des saisons.
Ça dépend des
saisons. Moi, j'irai pas à Montréal, on n'est pas l'automne.
Exact.
C'est ça ton conseil.
Vous êtes nos yeux, nos oreilles, 4h28, qu'est-ce qui se passe sur la route?
Oui, sinon vous mentionnez toujours Félix Leclerc, direction Est, à la hauteur de Robert Bourassa, la voie gauche qui est partiellement entravée en raison d'un accident. Ça s'est terminé aussi dans le secteur du pont. Bonne nouvelle, Henri IV, direction Nord, il y avait la voie gauche du centre qui était bloquée en raison d'un accident. Bien, ça, c'est réglé, mais il y a toujours des répercussions dans ce secteur-là. Pas facile pour aller prendre le pont Pierre-Laporte en direction Nord via la 73, le ralentissement qui commence à partir de la rue Beaulieu. Sur la 20 en direction ouest maintenant, ralentissement à partir de la route du président Kennedy jusqu'à Taniata, on est au rouge, très très foncé. Accès au pont de Québec via Guillaume Couture aussi extrêmement difficile. Duplessis en direction sud, pour aller chercher le pont Pierre-Laporte, là, à partir du chemin Sainte-Foy, hyper difficile en ce moment. Henri IV, pour aller chercher le pont, c'est à la hauteur de Charest. Puis je vais terminer avec la capitale en direction ouest. À la hauteur de Henri Bourassa jusqu'à Laurentienne, c'est ton rouge. Direction est, entre Lormière et Pierre-Bertrand, on est aussi au ralenti. Et sinon, Laurentienne, cette fois-ci, en direction nord, on le voit un peu moins. À la hauteur de la capitale jusqu'à environ le Jean-Talon, il y a un ralentissement. S'il y a quoi que ce soit d'autre, 488-971-1021, ça paraît qu'on ne fait pas le retour souvent puis qu'on voit pas... Comment c'est difficile l'après-midi?
Ouais, surtout omnibulé par le nombre de gens qui ont entendu ma joke poche. Je m'excuse.
C'est sûr qu'ils sont dans leur auto, ils ont tout entendu.
Ben oui.
On en a échappé une fois de temps en temps.
Exact.
C'est tout.
Voilà. Hey, triste nouvelle, l'ancien journaliste et conseiller municipal Jacques Teasdale, qui est malheureusement décédé il y a de ça quelques heures. Il avait 74 ans, puis on se souvient que sa famille était en colère parce que Jacques Teasdale avait été à l'hôpital pour recevoir des traitements. Mm-hmm. Par la suite, on lui a dit « Monsieur Teasdale, on va vous rappeler », puis on l'avait carrément oublié, alors que sur les images qu'on avait de son... je pense que c'était un truc comme l'échographie ou quelque chose du genre,
son taco,
on voyait qu'il y avait quelque chose de totalement anormal.
Métastase déjà.
Puis on ne l'avait pas rappelé.
Ça s'est propagé.
Son fils Olivier était extrêmement fâché de ça. Puis malheureusement, il est décédé. Il nous a quittés. J'ai parlé à Olivier dans les dernières secondes. Là. Puis je vais faire mes sympathies parce qu'il était venu faire un tour dans le studio de Boulevard pour nous raconter un peu l'histoire de son père, à quel point c'est tannant de voir que le système de santé peut échapper comme ça du monde.
Puis c'est tragique, en fait. Là.
Le fait est qu'il parlait de l'histoire de son père parce qu'il ne voulait plus que ça arrive pour d'autres personnes. Il y avait quelque chose à nous raconter aussi cette journée-là.
Donc, il fait partie de ces gens-là qui auraient pu être encore en vie et en santé là, en ce moment-ci.
C'est très triste. Sinon, en manchette, rapidement.
Oui, un homme de 26 ans qui est accusé d'avoir ciblé des jeunes filles inconnues pour commettre des actions indécentes dans la région de Portneuf. L'homme qui était déjà en attente d'une peine pour une accusation d'agression sexuelle. Je vous parle de Kevin Desbiens, accusé de 7 chefs d'exhibitionnistes, de harcèlement criminel et d'actions indécentes pour des gestes qu'il aurait commis dans le secteur de Pont-Rouge et Sainte-Catherine, la Jacques-Cartier, les 5 et 9 juillet prochains. La procureure, dans ce dossier-là, qui s'oppose à sa remise en liberté des biens qui a été arrêté dans Portneuf la semaine dernière. Donc, on va certainement suivre ce dossier-là. Sinon, légère baisse du taux d'inflation au pays. Les données de Statistique Canada qui ont été publiées aujourd'hui qui montrent que l'inflation a augmenté de 2,7 % d'une année à l'autre en juin, en baisse par rapport à la hausse de 2,9% observée en mai dernier. Puis peut-être terminer avec Elon Musk qui prévoit de donner environ 45 millions de dollars par mois. Oui, vous avez bien compris, à un groupe de soutien à la campagne présidentielle de Donald Trump auquel contribuent d'autres personnalités aussi du secteur technologique. Puis je vous rappelle qu'en mars, M. Musk avait affirmé qu'il ne soutiendrait financièrement aucun candidat, mais il est revenu sur sa décision puis il va donner, à partir de ce mois-ci, 45 beaux millions de dollars pour M. Donald Trump.
On dit qu'il y a juste les morts qui ne changent pas d'idée.
Puis les fous.
Voilà. Les fous ne changent pas d'idée.
Les fous surtout. Ah. Imagine si t'es un fou mort.
Ah ouais, voilà.
Je fais exprès.
Merci de ton apport.
Je fais exprès.
Au sport, Pascal Vincent s'est trouvé une job?
Ouais, s'est trouvé une job. Maintenant, entraîneur-chef du Rocket de Laval. On était supposé d'avoir M. Jean-François Houle dans ce poste-là. Il a signé un contrat, mais quelques semaines plus tard, il y a eu une autre offre. Il a décidé de quitter pour une autre équipe. Si je ne me trompe pas, c'est dans une équipe universitaire aux États-Unis. Donc, Pascal Vincent, qui était notamment entraîneur-chef du côté de Columbus, aussi adjoint. Il a été 5 ans dans la Ligue américaine pour l'équipe affiliée des Jets de Winnipeg, le Moose de Manitoba.
C'est fou, deux personnes quand même qui ont ce poste-là. Bravo à Pascal et à Vincent.
Sinon, toujours dans le hockey, Joe Pavelski qui prend sa retraite, un gars qu'on a très bien connu du côté de San Jose et aussi un peu du côté de Dallas pour la fin de sa carrière. Un choix de 7e ronde en 2003, Joe Pavelski. 1068 points, 1300 matchs joués dans la Ligue nationale de hockey. Donc, ça se termine pour lui. Puis, un peu de Canadien de Montréal, on va trouver une façon d'en parler. Ivan Demidov, le dernier choix du Canadien de Montréal au dernier repêchage en première ronde. Selon Scott Wheeler, qui est de The Athletic, un des bons journaux, si vous voulez, le côté sportif. Il dit que c'est le troisième meilleur espoir de la Ligue nationale de hockey en ce moment, derrière Matvey Michkov et Macklin Celebrini, qui a été repêché au tout premier rang, au dernier repêchage.
On vient de faire la circule, mais ça rentre encore les textos comme quoi, déjà, on n'a jamais vu à quel point c'est bouché en ce moment, entre autres sur la 20 direction Est à partir de Lagueux. Oui, c'est vraiment difficile aujourd'hui sur le réseau routier. Si vous pouvez utiliser Waze ou encore votre Google Maps pour vous faire passer ailleurs que dans votre chemin normal, peut-être une bonne idée cet après-midi.
16h33, un peu de contenu dans cette émission-là. Nicolas Gagnon de la Fédération canadienne des contribuables, il est appelé aussi le dieu grec de Laval. Nicolas, salut!
Salut, tout le monde va bien?
Oui, ça va bien. Je pensais que tu prenais des vacances, toi, à la Fédération canadienne des contribuables cet été.
Oui, j'allais tout dire ça, puis à chaque fois, je repousse ça au calendrier grec, justement, tant qu'à parler grec. Mais non, écoute, en fait, pour vous annoncer ça en grande primeur, je suis en vacances la semaine prochaine, donc tristement, il n'y aura pas de chronique à vous livrer. Je vais être sur le bord de la plage, très loin, et je répondrai pas à mon téléphone, même s'il sonne. Mais d'ici ce temps-là, on est quand même sur la job, donc on va continuer à livrer jusqu'à vendredi en après-midi à 4h.
Ouais, bon, on va te retrouver pareil. Je vais envoyer Pascal essayer de te chercher, tu vas voir. Elle va te trouver.
Puis quand moi je traque, je trouve.
Est-ce que tu fais partie du 40% des Québécois qui sont pas capables de décrocher de leur boulot, même en vacances?
Ça dépend. C'est une bonne question. Je te dirais que c'est génial. Oui, j'ai regardé mon téléphone durant les vacances comme n'importe qui, mais peut-être pas pour répondre à des courriels de travail. Ça n'en reste que de notre côté, on a quand même des dossiers qui avancent pour le mois d'août sur lesquels je vais garder un œil. Je mets souvent la puce à l'oreille, comme quoi au mois d'août, on sort notre fameux rapport sur la transparence fiscale à la pompe, où est-ce qu'on dévoile un peu aux Québécois puis aux contribuables, pas mal à la grandeur du pays, combien ça coûte par litre d'essence, toutes les taxes qu'on paye. Donc, on met à jour ces dossiers-là, puis on est en mesure vraiment de, comment dire, de divulguer ces informations-là de manière plus générale et à jour à chaque année au mois d'août. Fait que là, je me trouve à prendre des vacances, puis après ça, on sort le rapport. Donc, je vais avoir un œil sur mon téléphone, je vais pas trop regarder ce qui se passe, mais il n'en reste que c'est une forme de travail, d'avoir une forme de... une partie de ta concentration n'est pas sur tes vacances, c'est quand même passer sur ce qui s'en vient au retour des vacances, pareil.
À la Fédération canadienne des contribuables, depuis que, bon, on a dit au Québec, 2035, c'est fini, les véhicules à essence. Puis d'ailleurs, j'en ai appris une bonne, là, puis je pense que la Coalition Avenir Québec va devoir s'adapter là, sur cette nouvelle loi qu'ils veulent mettre en place. Mais si, exemple, Nicolas, tu as un véhicule à essence, puis 2035 arrive et que tu veux acheter un véhicule électrique, le commerçant, pour l'instant, avec la loi qui a été mise en place, ne pourra pas acheter ton véhicule à essence. Il n'aura pas le droit de le faire.
Effectivement, ça va dans les deux sens. C'est pas juste le particulier qui est impacté par la réglementation, c'est aussi le concessionnaire, ouais. Le distributeur. Et il faut pas oublier non plus que cette interdiction-là, ça a quand même des impacts économiques assez importants. On peut autant parler des différentes raffineries au Québec que des stations-service et tout ça. Ça va impliquer une transformation de l'économie. Mais nous, ce qu'on trouve le plus dérangeant au final, c'est que, d'un, je suis pas mal sûr que c'était pas dans les différentes plateformes, là, aux dernières élections, du moins. C'est pas tout à fait quelque chose sur lequel les gens ont voté, ne serait-ce qu'en 2022. Et sinon, vaut mieux aussi de rappeler que, on n'a pas le coût, en fait, par rapport à combien ça va coûter, cette transition-là. C'est-à-dire que là, on nous dit que la réglementation va être déposée et qu'on va tranquillement la mettre sur pied là, pour le 31 décembre 2024. Ce qui veut dire qu'après ça, on va être à 10 ans de voir la vente des véhicules à essence et au diesel, des nouveaux véhicules, être interdite au Québec. Et il faut aussi rappeler que c'est en parallèle avec une réglementation qui est en tout point identique, ou presque, qui est au fédéral. Donc, on est un petit peu pris entre l'arbre et l'écorce, c'est-à-dire que autant que on aimerait ça voir le gouvernement du Québec reculer sur cette réglementation-là, autant qu'au fédéral, il y a un travail qui va être à faire pour renverser cette même réglementation qui s'applique dès 2035.
Puis, ils vont devoir trouver d'autres ressources là, pour remplir leur coffre, là, parce que j'imagine que l'argent qu'ils n'auront plus à prendre sur chaque litre d'essence, il va falloir qu'ils compensent ailleurs. Ils vont compenser où? Par la taxe kilométrique?
C'est ça, déjà qu'ils se sont engagés en septembre dernier. En tout cas, je me souviendrai toujours que François Legault a dû faire une conférence de presse pour démentir ce que disait Fitzgibbon d'un côté puis son ministre des Finances, Éric Girard, de l'autre, en disant que finalement, il n'y aura pas de taxe kilométrique. Mais on met la pédale au fond, par exemple, pour faire une transition vers des voitures électriques. Et en contrepartie, inévitablement, il va avoir des pertes de revenus à une place. Il va donc avoir une nécessité d'aller en chercher ailleurs. Du moins, dans la mentalité du gouvernement, c'est comme ça que ça va s'appliquer. Mais il n'y a pas juste la perte des perceptions sur les taxes sur l'essence. Il y a le coût global de la transition comme telle, pas juste des nouvelles bornes électriques, mais on faut quand même se rappeler qu'on va faire un virage vers le tout à électrique. Et ça veut dire que nécessairement, on va racheter des millions de voitures sur le réseau énergétique. Et le 30 novembre dernier, Hydro-Québec est en comité parlementaire à l'Assemblée nationale, qui ont eux-mêmes reconnu qu'il n'y avait pas prévu le poids de l'ensemble de la nouvelle flotte de voitures électriques sur le réseau énergétique comme tel. Et que là, ils pensaient aux différents moyens d'augmenter la production. Inévitablement, on va arriver à un point de saturation où est-ce qu'on n'aura pas le choix d'ajouter des infrastructures énergétiques. Et sinon, on doit s'attendre aussi à des augmentations de tarifs d'électricité. Donc ça, c'est des choses qui n'ont pas été encore divulguées aux contribuables, à personne pour l'instant. Et c'est le genre de choses qui devraient être au moins divulguées avant que la réglementation passe et avant même qu'elle devienne réalité. Là, on sait que le gouvernement du Québec, en 2030, ils vont faire une étude des marchés. On a hâte de voir ce qu'il y en est, parce que leur objectif est presque, c'est presque une utopie. On est à 270 000 voitures électriques sur les routes présentement au Québec, et ils espèrent qu'il y en ait 2 millions d'ici la fin de la décennie. On parle de décupler le nombre. Ça vient avec un coût pour les subventions, pour les bornes de recharge, l'ajout d'infrastructures énergétiques s'il y a lieu. Et on sait aussi qu'Hydro-Québec, ils s'en cachent pas, ils veulent augmenter les tarifs. Donc, à quel point ça va augmenter pour pouvoir soutenir cette transition que les Québécois n'ont pas demandé.
Puis, est-ce que je vais être compensé, moi? Parce qu'à un moment donné, quand je vais avoir un véhicule électrique, quand j'aurai pas le choix d'avoir un véhicule électrique, je vais devoir avoir une borne à la maison. Là, pour l'instant, moi, ça va bien. J'ai une maison, mettre une borne, raccorder ça au système électrique, je vais être correct. Mais est-ce qu'on va compenser les propriétaires d'édifices à logement qui vont devoir, eux, se procurer des bornes électriques pour chacun de leurs locataires? Est-ce qu'à l'île des Sœurs, j'imagine que tu as déjà été à l'île des Sœurs, tu sais, le nombre de condominiums qui sont là, il y a du véhicule comme pas possible. Est-ce qu'on va compenser les propriétaires de ces condos-là? Parce qu'il va falloir remplacer tout le système électrique à l'intérieur de ces gros édifices-là pour pouvoir donner de l'énergie à toutes ces machines-là. C'est pas vrai que quelqu'un va se lever à 2 heures du matin pour donner son stationnement à quelqu'un qui va se lever aussi à 2 heures du matin pour faire son changement de stationnement pour aller mettre de l'électricité dans sa voiture. Ils vont vouloir tous et chacun leur borne.
C'est une très bonne question. Pour l'instant, ce qu'on sait, c'est qu'il y a déjà des subventions qui sont mises en place, tant au niveau fédéral que provincial, justement pour permettre aux gens d'acquérir une borne, tant pour leur résidence que dans le cadre d'une copropriété ou d'un bâtiment multilogement. Donc ça, pour l'instant, ça c'est les contribuables qui payent, vous l'aurez compris. Mais en retour, il y a cette compensation qui est disponible. Cependant, par exemple, pour l'achat des voitures électriques au Québec, ben, en 2027, on le sait, c'est un programme qui va disparaître, le fameux programme Rouler Vert, qui vous donnait droit à une subvention, là, qui allait jusqu'à 7 000 ou 8 000 $, pardon, pour l'achat d'un véhicule, électrique ou à zéro émission. Donc, ça, ça sera pas disponible, mais le gouvernement du Québec s'est engagé à orienter tout cet argent-là qui serait plus donné dans ce programme de subvention vers les bornes de recharge, essentiellement les bornes de recharge publiques. Dans le projet présentement du gouvernement, on parle de l'ajout de pas loin de 110 000 bornes de recharge à travers tout le Canada, tout le Québec, pardon, d'ici la fin de la décennie. Donc, c'est quand même immense. Et oui, ça va venir avec un coût qui est assumé par les contribuables, mais les programmes de subvention pour les voitures, pour les bornes de recharge, elles vont rester disponibles encore, du moins pour aussi longtemps que c'est prévu pour l'instant.
Mais c'était tellement difficile. Je me rappelle avoir travaillé pour une entreprise qui m'avait fait faire les recherches du comment, du pourquoi, puis pour faire cette demande de subvention-là, attelez-vous si vous en voulez une. Là, c'était vraiment compliqué. Mais Nicolas, c'est-tu aussi la fin de l'avantage électrique? Je m'explique. Longtemps, on voyait une alternative d'économie avec tout ce qui était voiture électrique et autres. Penses-tu qu'on s'attire à sa fin, tout ça?
Ben, c'est sûr que, tu sais, d'une manière ou d'une autre, nous, on n'est pas là pour dire que les voitures électriques sont mauvaises ou pas. On dit pas aux gens de pas en acheter. En fait, les gens devraient avoir le droit de choisir le véhicule avec lequel ils veulent rouler. Puis, et dans ce cas-ci, si les gens choisissent une voiture électrique et que c'est mieux pour eux, tant mieux. De l'autre côté, on va quand même pas passer sous silence le fait que présentement, une voiture électrique au Canada, c'est pas abordable pour le commun des mortels. On sait aussi que les objectifs sont assez démesurés parce que ça nécessite des investissements massifs autant pour que les voitures soient accessibles au grand public, autant pour en augmenter le nombre, que ce qu'ils font présentement les gouvernements pour augmenter le nombre de voitures. Bon, on investit massivement dans les Nordvolt, les Stellantis, les Volkswagen de ce monde pour augmenter le nombre de voitures et de batteries électriques et éventuellement faire baisser les prix, mais tout ça vient avec un coût financier assez important. Et oui, finalement, le tout à l'électrique, je veux dire, c'est pas une question d'être contre ou d'être pour, mais de dire qu'il y a un coût à ça et que si le gouvernement est pas prêt à l'exposer ce coût puis à l'encaisser convenablement, ben c'est inévitablement les contribuables qui vont payer pour. Et je me dis que si les gens ont la difficulté à acheter une nouvelle voiture présentement, tranquillement, ils auront juste plus les moyens de s'acheter une voiture, point, que parce qu'on ne pourra plus acheter de voiture à essence ou au diesel, et ça va limiter nécessairement là, les capacités des gens à pouvoir se déplacer puis à pouvoir faire des choix par eux-mêmes pour leur mode de déplacement.
En terminant, Nicolas Gagnon de la Fédération canadienne des contribuables, Radio-Canada, qui va de l'avant à 1194 chanceux qui auront des bonus cette année, mais Radio-Canada refuse de dire pour combien de dollars.
Ben oui, vous avez sorti cette petite nouvelle-là il n'y a pas longtemps, qu'on a découvert que sur le site de Radio-Canada, le 25 juin dernier, on avait déposé le rapport annuel qui mentionne que on va donner des bonus cette année, encore une fois, et ça malgré les résultats plus ou moins convaincants. Parce que, bon, dans le livre du commun des mortels, qui doit écouter présentement, quand on pense à bonus, on pense à performance. Et généralement, ça vient ensemble. Dans le cas de Radio-Canada, tous les indices de performance sont plus ou moins intéressants. Puis quand on regarde, par exemple, les finances de CBC Radio-Canada, c'est pas très reluisant non plus. À chaque année, on repasse devant la ministre des Finances pour dire que on a la difficulté à booker, à fermer les livres ce mois-ci. Pouvez-vous nous aider? Et donc là, ça commence à coûter cher. Et comme c'était pas assez, l'année dernière, on a viré plus de 340 personnes. Et donc, pour cette même année-là, où est-ce qu'on avait des cotes d'écoute en chute libre, où est-ce qu'on a des finances qui sont dans le rouge, ben on se donne des bonis à 1194 cadres et employés non syndiqués. Et encore là, Radio-Can refuse de nous divulguer pour l'instant combien ça va coûter tous ces bonis-là. À titre de rappel, chez Radio-Can, depuis 2015, c'est 114 millions de dollars qui ont été distribués en bonis. Donc, c'est quand même énorme. C'est plus de 90 millions de dollars en augmentation de salaire. Et le nombre de salariés qui font plus de 6 chiffres par année a augmenté de 231%. Donc, zéro rigueur dans la gestion de l'argent des contribuables chez Radio-Can. Et toujours un grand manque de transparence par rapport à c'est quoi les fameux indicatifs de performance pour justifier les bonis. Mais on va continuer à faire pression pour obtenir plus de réponses.
Nicolas Gagnon, c'est toujours un plaisir. Je te souhaite de passer une belle semaine. Puis la semaine prochaine, vu que tu es en congé, on va essayer de te trouver. Si on ne te trouve pas, bonnes vacances.
Non, je te traque.
C'est bon, je compte là-dessus. Puis dans le pire des cas, on se revoit dans deux semaines.
Parfait, merci.
Profites-en.
Ça me fait plaisir.
Bye bye. À bientôt. De belles vacances, mon ami. Nicole Gagnon de la Fédération canadienne des contribuables, contribuables.ca. Nous autres, on s'en va en musique. Wizard sur Rickard, avec Rickard sur les ondes de Boulevard.
Le retour de Boulevard. La ride parfaite pour retourner à la maison. Boulevard 102.1. I hear records in my head everywhere that I go. I've got records in my head spinning out of control. They go round and